Bonsoir. Nous allons commencer notre soirée par une bonne nouvelle tombée en début d'après-midi. Cécile Kohler et Jacques Paris ont pu quitter aujourd'hui le territoire de l'Iran après 5 mois d'assignation à résidence à l'ambassade de France, à Téhéran. Et surtout, plus de 3 ans et demi en détention. Ces deux enseignants férus de littérature et de voyage réalisaient leur rêve de parcourir ensemble ce pays, quand ils avaient été arrêtés et accusés d'espionnage. C'étaient les deux derniers Français retenus par la République islamique qui a détenu jusqu'à 7 otages d'État. Cette bonne nouvelle pourrait être la dernière avant longtemps, car au 39e jour de la guerre déclenchée par une attaque conjointe israélo-américaine contre l'Iran, Donald Trump a menacé d'éradiquer une civilisation entière, je cite, une civilisation entière, si l'Iran ne débloque pas le détroit d'Ormuz, crucial pour l'approvisionnement pétrolier de la planète, avant 20h, heure de Washington, aujourd'hui, 1h du matin chez nous. De son côté, le chef d'état-major israélien dit vouloir intensifier les dommages causés au régime. Ce à quoi les gardiens de la révolution iranien ont rétorqué qu'ils étaient prêts à mener des actions contre les infrastructures qui, je cite, priveront les États-Unis et leurs alliés de pétrole et de gaz de la région pendant des années. Signe de l'extrême tension et surtout de la confusion qui règne, la Maison-Blanche a démenti aujourd'hui, en termes vifs, envisager l'utilisation de l'arme nucléaire contre l'Iran. C'est dire si le choix de notre sujet de ce soir est plus que jamais d'actualité. Où va l'Iran? Quel avenir pour l'Iran? Cette question semble simple, mais elle condense en réalité plusieurs vertiges, car l'Iran est aujourd'hui à la fois un pays en guerre, un régime sous pression, une société en rupture et un acteur central de la recomposition régionale. C'est à ces 4 niveaux, guerre, pouvoir, société, région, que nous allons essayer ce soir de répondre sans simplisme, en prenant la mesure de la complexité iranienne. Pour ce faire, nous avons la chance d'avoir 3 spécialistes, dont 2 ont vécu leur enfance en Iran. Azadeh Kian, vous êtes sociologue franco-iranienne, professeur émérite à l'Université de Paris-Cité. Vous avez fait une thèse aux États-Unis. Vous êtes une spécialiste reconnue de l'Iran contemporain que vous avez quitté à l'âge de 21 ans. Vos travaux portent sur le politique, les rapports de genre, les mobilisations sociales et la place des femmes dans les sociétés musulmanes. Farid Vahid, vous êtes politologue, co-directeur de l'Observatoire de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient à la Fondation Jean Jaurès. Vous êtes spécialiste de l'Iran et des recompositions régionales. Vous avez quitté votre pays à l'âge de 25 ans. Vous travaillez notamment sur la politique étrangère iranienne et ses réseaux d'influence. Et Bernard Ourcade, vous êtes géographe, directeur de recherche émérite au CNRS et l'un des meilleurs connaisseurs français de l'Iran. Vous analysez depuis plusieurs décennies les dynamiques territoriales, politiques et urbaines du pays, ainsi que son rôle stratégique au Moyen-Orient. Je propose de commencer donc par le premier point, si on arrive à se répondre à cette question, où est-ce qu'on en est de la guerre ? Donc, sur le plan militaire, l'Iran est désormais engagé dans une confrontation ouverte qui dépasse largement ses frontières. Longtemps adepte d'une conflictualité indirecte, Téhéran assume désormais le risque d'une escalade, qui est provoquée par les États-Unis et Israël, avec des conséquences mondiales, notamment énergétiques. Est-ce qu'on peut encore parler d'escalade maîtrisée ou est-ce qu'on assiste à une perte de contrôle progressive du conflit ? Qui veut commencer ?
Je vais bien essayer de commencer en disant tout d'abord que je pense aux Iraniens. Il y en a 92 millions comme ça, qui sont sous les bombes et qui ont d'un côté un régime dont on connaît l'efficacité en matière de répression et de l'autre côté des bombes qui ne concernent pas, comme on dit, le régime. On parle toujours du régime iranien. Le régime iranien, on oublie de dire que le pays s'appelle l'Iran et qu'il y a dedans un régime politique, mais il y a aussi d'autres forces politiques à l'intérieur du pays, et qu'il ne faudrait pas résumer la vie des 92 millions d'Iraniens à leur simple régime politique. Quand on parle d'Israël, on dit Israël, on ne dit pas le régime sioniste. Quand on parle des États-Unis, on ne dit pas le régime trumpiste. On parle d'États-Unis, d'Israël, et donc parlons d'Iran. On parlera ensuite du régime et des questions politiques, qui sont évidemment essentielles. Alors la guerre, d'abord, il faut remettre l'Église au milieu du village, n'a pas été souhaitée par l'Iran, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors dire que c'est la faute à l'Iran si tout cela existe, c'est un peu facile. Entre menacer quelqu'un et le tuer, il y a une différence. Même si ce n'est pas bien de menacer quelqu'un. Mais le tuer, c'est quelque chose d'autre. Et dans cette guerre imposée aux Iraniens par Israël et les États-Unis, et on se demande d'ailleurs qui d'Israël et des États-Unis mène la danse, est une guerre qui ne concerne pas la chute du régime. Après les massacres du mois de janvier, on en reparlera, les États-Unis donc, sont rentrés, et Israël surtout, dans une politique qui ne concerne pas le régime politique. Pour faire bref, la République islamique, de mon point de vue, est morte le 8 et 9 janvier dernier, quand le régime islamique a tué des milliers de personnes dans la rue. Preuve que ce régime n'avait aucune autre solution alternative que le massacre. Ça veut dire qu'il n'avait plus de pouvoir, plus de relations avec sa société et même pas assez de soutien dans son propre camp. C'est une espèce d'acte de décès de la République islamique. Il faudra encore quelque temps avant que les obsèques soient célébrées, mais l'acte de décès est déjà avancé. Cette guerre est peut-être aussi, pour les États-Unis et pour Israël, aussi un acte de décès. Non pas de décès. Israël, les États-Unis ne vont pas mourir, c'est évident. Même si Trump fait rayer Israël, l'Iran de la carte. Mais pour ces deux pays, c'est toute une politique qui est mise en jeu. C'est la présence américaine dans toute la région. On sait qu'il y a une dizaine de bases militaires américaines autour de la région. Ces bases étaient destinées à protéger les pays arabes, notamment le Qatar, l'Émirat, l'Arabie saoudite, d'une attaque iranienne en particulier. Et maintenant, c'est le contraire. Le fait d'avoir une base militaire américaine chez soi est une garantie d'avoir une attaque iranienne contre son territoire, non pas contre le territoire ou la société saoudienne ou amirati, mais contre les bases militaires. Autrement dit, cette guerre est pour l'Iran un drame épouvantable pour les Iraniens. Ça ne touche pas le régime islamique parce qu'il a d'autres ressources, on en parlera, pour continuer à subsister et à appliquer sa politique de répression et de domination. Mais c'est une attaque contre l'Iran, puissance régionale, contre l'Iran en tant que nation, en tant que patrie, prenons le terme que l'on voudra. C'est un pays qui a 12 millions d'habitants et qui a fait l'expérience de 45 ans de république islamique, qui a une expérience politique exceptionnelle dans la région, est capable de faire la part de ce qui est intéressant dans une révolution islamique, ce qui est moins intéressant. Et les Iraniens le savent, c'est là. Ils ont une formation politique exceptionnelle. Ils ont un niveau d'instruction et d'éducation unique dans toute la région. Et donc, ce n'est pas la République islamique qui est crainte, même si elle a, comme on le sait, 1000 défauts, et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais c'est le fait que l'Iran soit une puissance importante, une puissance régionale qui existe dans toutes ses dimensions. Et donc cette guerre n'est pas une guerre contre le régime islamique, elle l'est aussi, il tombera un jour ou l'autre, mais il est déjà mort, mais contre l'Iran en tant que peuple, en tant que nation, en tant qu'État. Et c'est ça, je crois, qu'il faut prendre en compte. Et quand on s'attaque à l'État iranien, cet État iranien, depuis pas mal de siècles, il en a vu des invasions, depuis Alexandre le Grand jusqu'aux Mongols, jusqu'aux Américains plus récemment, et les changements politiques de la République islamique, l'Iran est habitué, hélas, aux guerres d'agression extérieure. Et l'Iran s'est toujours sorti de ce guépier, mais en payant un prix exorbitant. Pour terminer, je pourrais dire, on dit quelquefois, c'est Mozart qu'on assassine. Je dirais, pour simplifier, c'est Hafez, le poète iranien, qu'on assassine aujourd'hui.
Azadeh, vous voulez...
Oui, d'abord, bonsoir et merci de l'invitation. Effectivement, pour rebondir sur ce que disait Bernard, je dois dire qu'effectivement, enfin, moi, j'ai fait paraître, si vous permettez, un article dans Conversation que j'ai intitulé « Qui est visé ? Est-ce l'Iran ou le régime islamique d'Iran ?» Et je conclus avec tout ce qui se passe depuis le début de la guerre, que c'est l'Iran qui est visé pour moi. Parce que si c'était le régime islamique, je pense que cette guerre aurait pu être menée autrement. Dans la mesure où, quand on attaque plus d'une vingtaine d'universités iraniennes, Institut Pasteur de Téhéran, qui date de 1920, qui est un institut, comme vous le savez, qui a été fondé par les Français en Iran et qui est le premier institut de Pasteur au Moyen-Orient et qui fabriquait des sérums, des vaccins, pas des bombes, qui a été complètement détruit. Quand je vois que 93 000 immeubles résidentiels et commerciaux qui ont été détruits, bombardés par les Américains et les Israéliens. Bien évidemment, la première école pour filles qui a été bombardée, c'était le 28 février 2026, tuant 168 petites filles. Et je peux malheureusement parler de ces destructions jusqu'à demain. Il y a une centaine aussi de patrimoine historique de l'Iran qui ont été détruits partiellement ou complètement. C'est pas le régime islamique qui est visé, c'est la population iranienne, bien évidemment, et l'Iran qui est visé. Bien évidemment, à cela s'ajoutent des réservoirs de pétrole, pétrochimie, ça a été dit, et aujourd'hui, par exemple, les Israéliens ont bombardé aussi les trains qui transportaient des passagers, etc. À chaque fois, sous prétexte que c'est peut-être pour des raisons de, les transports de guerre. Un pont visiblement très important architecturalement parlant entre Téhéran et Karaj a été bombardé. On a dit pour éviter que les véhicules militaires puissent traverser le pont, eh bien le pont n'avait même pas encore été achevé et ça a été bombardé. Crime de guerre, crime contre l'humanité. D'accord, tout ça, c'est dans les pays démocratiques, on considère ça comme crime de guerre, crime contre l'humanité.
Parce qu'on s'attaque aux populations.
Parce que c'est contre la population. Quand on bombarde des hôpitaux, bien sûr, c'est contre la population. Et aujourd'hui, Monsieur Trump, menace de bombarder toutes les centrales électriques de l'Iran et autre chose aussi gazière, etc. Mais centrales électriques, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hôpitaux vont être privés d'électricité. Ça veut dire que les personnes qui sont malades chez eux, qui ont besoin des appareils pour survivre et continuer à vivre, vont être privés d'électricité. Et bien évidemment, ça veut dire aussi tuer une bonne partie de la population iranienne, crime contre l'humanité encore. Alors, d'un autre côté, moi, ce que je constate, c'est que le régime islamique d'Iran a été décapité, certes, mais a bien survécu et s'est même renforcé dans la mesure où on voit bien à quel point ils peuvent riposter face aux deux armées les plus puissantes au monde, ce qui veut dire qu'ils se sont préparés ou ils étaient en train de se préparer à cette éventualité de guerre depuis longtemps avec leurs missiles balistiques et aussi des drones, etc. d'une part, et d'autre part, c'est un régime répressif qui continue à réprimer sa propre population, c'est-à-dire des personnes qui ont été arrêtées, probablement 50 000 qui sont emprisonnées, continuent à rester en prison, bien évidemment. Les exécutions continuent, presque de façon hebdomadaire. Et aussi d'autres personnes, comme par exemple Nassim Soutoudeh, qui est une avocate militante des droits des femmes, qui était en résidence surveillée, a été arrêtée récemment. Son mari est déjà en prison depuis 2 ans, etc. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui sont arrêtées. Pour vous dire que c'est un régime qui continue à réprimer sa propre population, et bien évidemment un régime qui continue aussi à riposter face aux attaques israélo-américaines, mais dans tout ça, eh bien c'est l'Iran qui est en train d'être détruit. Voilà un peu pour l'instant ce que cette guerre inutile, illégale et illégitime pour moi a pu emmener pour mon pays natal qui est l'Iran.
Merci. Farid, vous n'êtes pas nécessairement d'accord?
Non, mais je vais ajouter quelques commentaires. Et bonsoir à toutes et à tous. Tout d'abord, je suis assez ému, heureux d'être ici parce que je viens tous les dimanches pour la messe à côté. Voilà, j'ai été baptisé il y a 2 ans à Saint-Ignace, donc à quelques pas. Donc voilà, c'est marrant d'être ici en tant que conférencier. Mais ça me fait plaisir. Mais voilà, on parle d'un sujet qui, pour le coup, n'est pas très... disons très agréable. Donc déjà oui, humainement, c'est une situation je sais pas comment expliquer aux Odé pour en parler, mais qui n'est vraiment pas agréable dans le sens où je me réveille à 2h, 3h, 4h du matin, on regarde Twitter, on regarde une université se faire bombarder, un pont, une menace de suppression d'une civilisation. Après, on essaye de se recoucher. Donc voilà, je veux dire le quotidien des Iraniens, des Franco-Iraniens. Mais je pense que voilà, au-delà de la des Iraniens, ça devrait toucher tout le monde. On devrait tous se poser quand même des questions. Dans quel monde on vit, hein. La situation actuelle, je pense qu'elle est révélatrice aussi de ce qu'on est devenu tous ensemble. Je vais revenir sur le sujet de la guerre, mais j'ai quand même envie de dire un mot sur ça aussi. Pour tout vous dire, j'ai arrêté non seulement d'intervenir sur des chaînes d'infos en continu, mais j'ai même arrêté de les regarder parce que je trouve qu'il y a quand même une forme d'indécence sur le sujet où la guerre, elle est traitée comme un jeu vidéo où on s'amuse à commenter des missiles, des opérations de sauvetage, là où la vie des gens sont complètement... je vais pas rentrer dans des détails, mais parfois ça compte, parfois ça compte moins. Moi, j'étais quand même très, très touché et scandalisé quand même par la couverture médiatique des événements en Iran. Où, pour être honnête, j'ai quand même l'impression que la vie des Iraniens ne vaut pas quand même grand-chose. Mais bon, on reviendra sur l'Europe, la France et le reste. Pour rester géopolitique... Je pense pas qu'on ait des désaccords, mais voilà, je regarde peut-être un peu différemment la situation. Je pense que la guerre, elle était inévitable, et du point de vue israélo-américain, elle est logique. Dans le sens où, voilà, on prend souvent Trump un peu pour le fou du village et pour quelqu'un qui prend ses décisions à la dernière minute. Non, ça fait des années que les think tanks d'extrême droite aux États-Unis, en Israël, disaient qu'il fallait en finir avec l'axe de la résistance. Donc moi, je pense qu'il faut vraiment essayer de comprendre la guerre actuelle en Iran à la lumière du 7 octobre, c'est-à-dire après le 7 octobre, les Israéliens ils décident de manière assez méthodique finalement d'en finir une fois pour toutes avec ce que les Iraniens appelaient l'axe de la résistance. Donc les années 2010, on est dans un moment de tout pouvoir de la République islamique d'Iran dans la région. Voilà, la Syrie d'Assad, le Liban avec le Hezbollah, le Hamas. Bon, après, ils n'ont pas tous les mêmes liens avec Téhéran, il ne faut pas tomber dans la caricature, mais bon. Moi, j'étais à l'époque en Iran, on avait quand même le sentiment que le régime était tout puissant dans la région. Il y a eu l'accord nucléaire qui règle le problème du nucléaire. Ça, j'ai envie quand même d'insister. En 2015, on règle l'accord du nucléaire. Aujourd'hui, ce n'est pas un problème. Et l'Iran n'allait pas avoir
l'impact. Par Trump. Oui. Cet accord a été remis.
Oui, mais il faut comprendre pourquoi. Parce qu'en fait, en 2015, après des années de diplomatie avec l'Europe, les États-Unis, la Russie, la Chine, on règle le problème du nucléaire, même si l'accord n'est pas parfait. Mais bon, la question, elle est réglée, disons. En revanche, les Israéliens considéraient, de leur point de vue, qu'on n'avait pas mis sur la table des questions essentielles à leur sécurité. L'axe de la résistance, les missiles et d'autres questions. Donc en 2015, on signe l'accord sur le nucléaire. En 2016, l'Iran a 12% de croissance économique, ça les dérangeait. Donc voilà, ils sont très influents sur Trump. Trump, il gagne. En 2018, il sort de l'accord. En 2020, il élimine le général Soleimani, qui était l'architecte de l'axe de la résistance. Il perd les élections. Avec Biden, le régime, la faute stratégique du régime, c'est qu'ils auraient dû signer un accord, ils n'ont pas réussi, ils n'ont pas voulu, peu importe. Et là, le Trump du deuxième mandat, c'est un Trump quand même qui est beaucoup plus va-t-en-guerre, les Israéliens aussi. Et donc voilà, après le démantèlement du Hamas, l'affaiblissement du Hezbollah, la chute du régime d'Assad, en fait, voilà, les étoiles étaient alignées pour les Israéliens. Et je pense que le prétexte, ils l'ont eu aussi, j'emploie le mot prétexte, mais avec les manifestations en Iran, en disant qu'on voit, voilà, c'est pour aider les Iraniens. Donc Donald Trump, il pose la ligne rouge en janvier. Et un sujet quand même plus délicat, mais on reviendra sur ce sujet, c'est quand même la société iranienne, elle est très divisée sur ce sujet. Ça veut dire qu'il y avait quand même, durant le mois de janvier, une certaine attente dans une partie de la société, c'est très difficile de donner des chiffres, mais il y avait une certaine attente d'une réaction militaire étrangère. Ça montre le niveau du désespoir, c'est pas rationnel. Si on regarde d'un point de vue cartésien, c'est incompréhensible, mais ça montre le niveau... de désespoir des gens. Donc vous savez que les premiers jours, l'élimination du guide ou d'autres cibles qui étaient frappées, les Iraniens s'en réjouissaient. Le problème, c'est que la guerre, elle a évolué de manière plus que problématique. Ça veut dire, aujourd'hui, je ne sais pas si vous, Français, vous en rendez compte en regardant la télé, parce que bon, moi, je passe ma vie sur Twitter, sur des chaînes, sur des comptes iraniens, et j'ai quand même l'impression que la plupart des cibles sont des cibles civiles. Ouais, ce n'est pas que les infrastructures, je veux dire. C'est vraiment là où on vise des universités, des laboratoires, des centres scientifiques. En fait, tout ce qui peut directement ou indirectement être utile au programme militaire. Mais je veux dire, dans cette logique-là, demain, il faut bombarder l'X, Normal Sup, tout, l'école des mines, parce que évidemment que n'importe quelle école scientifique peut avoir un lien direct ou indirect avec l'industrie d'armement. Donc je vous rejoins sur la conclusion qui est qu'aujourd'hui, et je pense que c'est clair pour tout le monde, toute personne de bonne foi, même de l'opposition la plus dure iranienne, ne dirait pas le contraire, bon, peut-être pas publiquement, mais dans le fort intérieur, ils le savent, que cette guerre aujourd'hui, en fait, à défaut d'avoir eu une chute du régime immédiate, je pense que c'était ça le pari américain, c'est de taper très fort, très vite, en espérant une chute immédiate. Ça n'est pas arrivé. Le régime est très affaibli, mais ils utilisent très bien le point fort de la géographie iranienne. Alors moi, je pense que le régime, militairement, ils ne font pas du tout le poids. On l'a vu hein, avec l'opération de sauvetage de l'ordre de pilotes du côté américain. Mais en revanche, la géographie de l'Iran fait que, oui, ce pays existe depuis 2500 ans, c'est pas pour rien. Donc la géographie de l'Iran, aujourd'hui, joue beaucoup en faveur de l'Iran. Donc l'économie mondiale est prise en otage. Les Iraniens, on a eu le sentiment qu'ils reprenaient la main sur la situation militairement. Donc là, depuis quelques jours, oui, les Américains, les Israéliens, ils y vont. Bon, si le régime ne tombe pas, on va tellement affaiblir l'Iran que de toute façon, vous ne serez plus une menace. Mais le problème dans ce calcul-là, c'est que bon, les premières victimes sont la population. Parce que dans une semaine, deux semaines, moi j'ai peur que une fois que la guerre sera finie, les Iraniens vont se retrouver avec leur même régime, un peu plus féroce, un peu plus sauvage dans sa répression, mais avec une économie complètement ravagée et sans aucune porte de sortie immédiate pour la crise.
Merci. Azadeh, vous voulez...
Ah, pardon, je voulais juste préciser que, à ma connaissance, effectivement, bah, au début, je pense que je l'ai aussi mentionné, lorsque le guide a été tué et des gardiens de la révolution, etc., au début, il y avait beaucoup de personnes en Iran même et aussi parmi bien évidemment ceux et celles qui avaient participé aux manifestations de janvier 2026. Vous savez que plusieurs milliers de personnes ont été massacrées par le régime. Non, ben, alors le chiffre, il faut faire attention parce que pour l'instant, les organisations des droits humains qui sont en train de identifier les personnes tuées sont arrivées pour l'instant provisoirement au chiffre de 6700, ça c'est Herana qui est basé aux États-Unis, et il parle de 11 000 autres personnes qu'ils sont en train d'investiguer. Mais en tout cas, c'est le massacre le plus important sous le régime islamique en ce qui concerne les manifestants en tout cas. Donc il y a effectivement, comme l'a dit Farid Vahid, il y avait des gens qui au début, tout au début, étaient contents parce que le guide Khamenei était le bourreau, c'est lui qui effectivement avait ordonné le massacre de la population. Sauf que assez rapidement, ils ont vu qu'il ne s'agissait pas d'une guerre contre le régime, mais contre l'Iran et puis les cibles effectivement civiles ont été ciblées. Et donc raison pour laquelle graduellement, les avis ont changé. Par exemple, les témoignages, parce que comme Farid, moi, je me lève, la première chose que je regarde, c'est ça, et même à 3h du matin, parce que c'est l'âge, hein, vous savez, quand on est âgé, on se lève le matin, on ne sait pas pourquoi, après on se rendort. Mais à 3h du matin, ben, je suis sur mes réseaux sociaux, et une personne qui avait participé, que je connais, hein, qui avait participé, par exemple, aux manifestations de janvier, qui était content au début de la guerre, était en train d'insulter Trump parce que les gens, bien évidemment, voient que c'est leur pays qui est en train d'être détruit, et même le régime, je dirais, a réussi à, disons, attirer vers lui, non pas en son soutien, mais en disant nous sommes ceux qui sommes là pour protéger l'Iran, et il y a une partie des gens qui même participent à des manifestations pro-Iran ou pro-régime, mais en tout cas avec le drapeau du régime islamique dans la rue tous les soirs, malgré les bombes qui tombent. Donc on en est là, c'est-à-dire que cette guerre, encore une fois, c'est du gâchis n'a pas affaibli, à ma connaissance, le régime, malgré les assassinats ciblés d'énormément de dirigeants, à la fois au niveau civil et au niveau militaire. Mais finalement, ceux qui restent encore au pouvoir sont d'ailleurs, paradoxalement, les plus durs qui sont là. Voilà. Et voilà, pardon, je laisse la parole à Bernard.
Bernard.
Oui, on parlera de l'évolution du régime dans un instant, je crois. Mais je fais un parallèle entre ce qui s'est passé en 1980 lorsque l'Irak attaque l'Iran. En 1980, la révolution islamique a un an, Khomeini est arrivé au pouvoir avec l'aide des libéraux, des nationalistes, de la gauche, des marxistes. Et en 1980, le pouvoir n'est pas encore aux mains du clergé chiite, qui est évidemment très puissant, qui fait tout pour prendre le pouvoir, mais il n'a pas encore le pouvoir. l'attaque irakienne, avec l'aide des Français, Américains et de tout le monde, a fait que du jour au lendemain, forcément, tout le monde a dû se réunir pour défendre le territoire national, la patrie, et dont même le fils du Shah à l'époque avait dit « Je vais m'engager dans l'armée pour défendre la patrie avec l'armée qu'a fait mon père ». Et donc, réflexe de drapeau, tout le monde s'unit derrière le chef de l'État, M. Khomeini, pour défendre la patrie. Résultat, toute liberté politique est arrêtée. Normalement, c'est la guerre, n'est-ce pas ? La répression contre tous les opposants. Donc, tous les opposants libéraux, de gauche, etc. sont éliminés. Et le régime islamique, tel qu'on le connaît, se met en place. Aujourd'hui, même chose. 40 ans plus tard. Un des problèmes essentiels dans toute cette affaire, c'est le conflit entre Iran et États-Unis. Les États-Unis, c'est le grand Satan. C'est l'opposition impérialiste. La révolution islamique s'est faite contre, on pourrait dire, l'occupation américaine de l'Iran. Les Américains dirigeaient tout en Iran. Et donc, l'indépendance, l'opposition aux États-Unis est une opposition anti-impérialiste, mais c'est aussi anticulturelle. Les islamiques jouaient cette carte-là surtout, contre la culture occidentale, etc. Donc, la révolution s'est faite de façon un peu complexe. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Même chose, les discussions reprenaient parce que la prise en otage des diplomates américains en novembre 1979 a été un traumatisme exceptionnel aux États-Unis. C'est une insulte. On était 2 ans après la chute de Saïgon. Et là, des petits étudiants arrivent dans l'ambassade, prennent pendant 444 jours les diplomates américains. C'est une insulte gratuite et extrêmement forte à l'honneur des États-Unis, de l'Amérique. Et donc cette faute-là, ce crime-là, n'a jamais été effacé, même pas par l'accord sur le nucléaire. Et donc, tant que ce contentieux, Iran-États-Unis est vivant, n'a pas été réglé sur le fond, d'homme à homme, je dirais, la crise continuera. On sait très bien que la guerre Irak-Iran a été déclenchée à cause de cela. Et ensuite, la chute le 11 septembre, et ensuite tous les mouvements qu'il y a eu de l'islam politique dans le monde ont été déclenchés par cette opposition entre le monde musulman et l'Amérique, etc. Aujourd'hui, après 45 ans, il faut s'arrêter. Et les États-Unis, après 1000 événements, ont décidé effectivement de reprendre la négociation, même avec le gouvernement iranien qui était assez radical de Raïssi ou d'autres. Et donc les négociations commencent. Et une première fois, alors que les négociations sont en train d'aboutir, sont difficiles, c'est la guerre du mois de juin dernier, la guerre de 12 jours, où Israël attaque. Évidemment, après une guerre, on ne peut pas reprendre les négociations, c'est évident. Les États-Unis, donc, reprennent leurs négociateurs et ça s'arrête. Ça reprend quelques mois plus tard. Les États-Unis veulent, Trump veut quand même retrouver une solution. Et les négociations reprennent. Et deuxièmement, quand tout était prêt d'arriver, c'est la guerre du mois de celle-ci qui est recommencée quelques jours avant qu'une troisième round de négociation ait lieu. Pourquoi ? Parce qu'Israël sait très bien que le nucléaire, c'est fini. Ça a été bombardé, il n'y a pas d'espoir et les Iraniens savent très bien. Le gouvernement le plus radical dit sur le nucléaire, la question est hélas réglée, on n'en parle plus. Ce n'est plus un danger militaire, c'est un danger politique. Il s'agissait effectivement de faire que l'Iran, qui est la seule grande puissance de la région par sa population, son histoire et son identité nationale et politique, soit un rival d'Israël. Et donc, depuis le début, il s'agit de faire tomber l'État d'Iranien, de l'affaiblir de façon dramatique pour que ça dure longtemps. C'est la seule question qui est importante. Et on retrouve donc aujourd'hui, ce qui est important, on retrouve aujourd'hui, même chose, unité nationale derrière les gens qui gouvernent, les gardiens de la révolution, concrètement, qui sont le leader politique, militaire, économique, idéologique, répressif de la région, c'est les plus forts, qui se voient renforcés par la plupart des gens qui disent bien, il faut défendre le territoire national, défendre la patrie. Et donc, ces gens-là, qui sont les plus radicaux, bénéficient, alors qu'ils n'ont rien fait pour cela, du soutien au moins tacite des gens qui disent il faut arrêter la guerre, il faut arrêter la guerre. Et donc, eux se trouvent renforcés de facto, non pas parce qu'ils attirent les Iraniens, mais parce que la plupart des Iraniens sont poussés vers eux par les Israéliens. C'est grâce à Israël que les gardiens de révolution sont arrivés au pouvoir. Merci, monsieur Israël.
Je passe la parole à Farid, et ensuite, on pourra avoir une première série de questions autour de la guerre. Farid.
Alors, j'ai souvent le privilège d'être avec le professeur Ourkia dans des débats, et c'est là où on n'est pas d'accord, mais on n'est pas d'accord cordialement, évidemment. Non, je pense qu'il y aura... Moi, je pense qu'il n'y a pas d'effet de drapeau derrière les gardiens de révolution. Alors, oui, ils ont une base partisane très idéologisée, très fanatique.
On dit que c'est 20% de la population ?
Peu importe, parce que les chiffres ne sont pas scientifiques. Donc, on peut donner notre chiffre selon notre feeling. Il y a une base aussi qui soutient le régime pour des raisons économiques. Mais je pense que le vrai drame de l'Iran aujourd'hui, c'est qu'une majorité d'Iraniens, moi j'ai l'impression qu'ils ont fait le deuil de toute façon en fait de l'Iran. Je vois beaucoup de dépression en Iran. Quand je parle à mes proches, quand je parle aussi aux diplomates français qui sont toujours à Téhéran, en En fait, on a le sentiment que les gens subissent la situation. Ils sont dans une forme d'attentisme, de passivité. Ils ne savent plus quoi faire. Je veux dire, les Iraniens, ils sont tellement sortis dans la rue. Ils ont tellement tout fait, finalement, pour être libres. Et en face, ils ont un régime tellement dur, tellement barbare, qui ne donne jamais aucune avancée à la société. Donc aujourd'hui, ce qui est terrible, c'est qu'il y a une impasse. Et les Iraniens, ils sont pris, en fait, d'un côté, entre la République islamique d'Iran, qui est l'une des pires dictatures de notre siècle, et de l'autre côté, entre, il faut le dire aussi quand même, hein, je ne mets pas du tout les deux au même niveau, ce serait absurde, mais de l'autre côté, Trump et Netanyahou ne sont pas des personnes quand même, j'ai envie de dire, équilibrées. C'est pas, je veux dire, c'est même pas Bush. Je veux dire, on est quand même face à des spécimens. Quand vous regardez Donald Trump, sa communication, je pense que même les Américains conservateurs de droite, ils devraient quand même se sentir mal à l'aise avec quelqu'un qui, le jour de Pâques, dit « on va tous vous détruire, bande de bâtards, et gloire à Allah ». Je veux dire, on est quand même face à quelque chose d'assez extraordinaire.
C'est la citation,
mais juste.
C'est la citation exacte.
Je cite entre guillemets « verbatim » ce que Donald Trump a dit le jour de Pâques. Donc je pense qu'après, on va revenir sur le sujet, mais encore une fois, qu'est-ce que nous, on fait ici, nous, Français, Européens, je veux dire, nous sommes aussi des grandes puissances. Est-ce qu'on se résilie à l'idée d'être des observateurs et regarder un fou détruire tout l'ordre international que nous avons établi avec autant de difficultés après la Seconde Guerre, ou est-ce qu'on décide à un moment aussi de faire quelque chose ?
Azadeh ?
Oui, rapidement, là je suis d'accord avec Farid, c'est-à-dire que ce que je constate, que je vois aussi avec mes contacts en Iran, etc., il n'y a pas réellement d'effet drapeau derrière les gardiens de la révolution. Il ne faut pas... Hein, c'est-à-dire que le fait est que effectivement, ce que je constate, c'est les gens ont peur, c'est beaucoup de gens se tairent et essayent de survivre en disant quand est-ce que cette guerre va se terminer. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a énormément de gens en Iran qui ont été mis au chômage à cause de la guerre. Par exemple, le secteur de construction, c'est le secteur le plus important dans l'économie iranienne, qui est une économie, comme on le sait, pétrolière, etc. Donc, rentier, je veux dire. Et donc, il y a, par exemple, énormément de gens qui sont au chômage. J'ai discuté avec des entrepreneurs qui ont mis la clé sur la porte et donc eux-mêmes, ils sont désœuvrés et leurs employés sont au chômage. Et quand je dis au chômage, c'est pas comme en France, hein. Au chômage, ça veut dire sans revenu. 3 millions de personnes ont été déplacées du fait de la destruction de leurs immeubles, de leurs logements. Donc le chômage, la pauvreté qui était déjà très importante, plus de 50% de la population déjà avant la guerre vivait sous le seuil de pauvreté, aujourd'hui encore davantage. Et puis les prix des denrées alimentaires, etc., qui ont augmenté de façon exponentielle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pénurie, certes, mais c'est tellement cher qu'il y a énormément de familles qui maintenant ne peuvent même pas se nourrir. Donc on a tous ces problèmes-là, et même si la guerre se termine aujourd'hui, ben, il faut voir comment. Et si le régime reste au pouvoir ou pas, ça c'est à mon avis secondaire dans ce que je vais dire, parce que le pays doit faire face à l'ensemble de ses problèmes sociaux, économiques, etc. Et voilà. Et donc là, effectivement, Trump peut dire « j'ai réussi à mettre ce grand pays, cette grande civilisation, à faire disparaître, mais en tout cas à détruire largement ». Malheureusement, c'est ça qui se passe. Et que fait l'Europe?
Des questions? Non? Oui, monsieur? Donc, restez autour de la guerre, parce qu'on parlera après de... Je vais répéter la question de manière à ce que tout le monde entende. Dans quelle mesure le régime iranien a voulu la destruction d'Israël?
Je pense que c'est une très bonne question. Et c'est peut-être la question pour comprendre tout ce qui s'est passé cette dernière décennie. Et c'est le vrai drame aussi de l'Iran. C'est-à-dire, la révolution de 79, très vite, elle va dans une direction qui n'était pas souhaitée par les Iraniens. Pour plein de raisons, on ne va pas faire l'histoire de la révolution de 79 et la guerre qui a touché l'Iran pendant les années 80. C'est vrai que cette idéologie anti-américaine, anti-israélienne n'a jamais été demandée, je veux dire, aux Iraniens. Il a été imposé aux Iraniens. Je pense que si on organisait un référendum sur la reconnaissance de l'État d'Israël, honnêtement, je ne vois pas pourquoi les Iraniens diraient non. Je veux dire, voilà. Aujourd'hui, oui, évidemment, aujourd'hui, mais à l'époque, je veux dire, il y avait une très grande communauté juive en Iran, il y avait des liens historiques, civilisationnels. À l'époque du Shah, il y avait des relations équilibrées avec les pays arabes et avec les Israéliens. Et de toute façon, je suis persuadé qu'il n'y aura jamais de paix et de stabilité durable dans la région tant qu'il n'y a pas une entente cordiale entre Téhéran et Jérusalem. Donc oui, c'est le drame de l'Iran, c'est que ce régime, d'un point de vue, j'ai envie de dire, de manière unilatérale, sans demander l'avis de la population iranienne, et afin de rentrer dans le cœur des pays arabes, parce que l'Iran, je déteste hein, cette vision ethnique et religieuse parce que c'est très orientaliste et ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, disons que pour le nouveau régime iranien, pour espérer de gagner une certaine influence dans les pays de la région, il fallait s'emparer de la cause palestinienne. Donc en fait, ils font ça, mais de manière extrêmement agressive. Donc c'est sûr que du point de vue israélien, l'Iran est une menace existentielle, le régime. L'axe de la résistance est une menace existentielle. Et aujourd'hui, du point de vue du régime, cette guerre est une menace existentielle. En fait, pour comprendre la guerre aujourd'hui, pour comprendre pourquoi, à quel point on a le sentiment que c'est plus rationnel et que c'est en train de devenir de pire en pire, c'est ça. Chacun, à tort ou à raison, mais chacun, à part les Américains, pour le coup, je ne sais pas pourquoi Trump a été embarqué dans cette histoire. Mais les Israéliens, ils considèrent que c'est existentiel, qu'ils doivent se débarrasser de la République islamique ou avoir un État tellement faible qu'il ne posera plus de problèmes. Et du point de vue de la République islamique, ils considèrent qu'ils ne peuvent pas se faire attaquer tous les 4 mois, tous les 5 mois, comme les Libanais ou comme les Palestiniens. Donc ils veulent changer le rapport de force. Comment ils peuvent le faire? Avec l'économie mondiale et le détroit d'Hormuz. Donc je pense que voilà, l'escalade va continuer, mais je suis... Je ne peux pas dire oui ou non, mais je pense que quand vous écoutez quand même les généraux des gardiens de révolution, les personnalités les plus emblématiques, ils présentaient tous comme rêve ultime la libération de Jérusalem. Donc bon, ça veut dire ce que ça veut dire.
Ben non.
Oui, il ne faut pas être, disons, caricatural. Je suis souvent allé en Israël pour discuter justement du nucléaire iranien avec des groupes contre la prolifération nucléaire, etc. Et ce qui était en cause, et les gens un peu sérieux, côté israélien, disaient « Le danger nucléaire iranien n'existe pas parce que l'Iran n'a pas de bombe actuellement, on est encore loin de l'avoir, c'était dans les années 2000, et nous avons déjà en Israël 50, 100 têtes nucléaires, autrement dit, ce n'est pas un danger militaire, ce n'est pas un danger existentiel. Le nucléaire, par contre, est très important politiquement, parce que si l'Iran avait une capacité de cette nature-là, nous serions deux pays, Pakistan étant à part, à avoir dans la région une capacité nucléaire et donc à prétention politique d'avoir une certaine stature internationale. Et donc, deuxième élément de discussion en Israël, de partir de deux gens, ce n'est pas le danger nucléaire iranien, c'est le fait que l'État iranien, en tant que tel, est effectivement le seul pays de la région, de la périphérie dans la politique de Ben-Gourion, était d'avoir à la périphérie du monde arabe, Turquie, Iran, Éthiopie, des pays encerclant le monde arabe, capables d'aider Israël de facto ou bien d'être des alliés de circonstance. Autrement dit, effectivement, le fait que Yasser Arafat se rende à Téhéran à peine la République islamique proclamée a été pour Israël un choc évident. C'est incontestable. Et que les révolutionnaires islamiques qui voulaient libérer Jérusalem ont trouvé là une occasion extraordinaire. Mais c'est oublié qu'en Iran, il n'y a pas que les islamistes. Et les gardiens de la révolution dont on parle beaucoup aujourd'hui ont été, au début, c'était des étudiants, des quelques intellectuels qui étaient dans le comité révolutionnaire, une petite minorité, qui sont devenus ensuite des combattants à la guerre Irak-Iran. Et qui ont effectivement dit que pour protéger la République islamique révolutionnaire dont ils parlaient, ayant le rêve que Israël soit rayé de la carte, etc., ou s'en aille, il faut en attendant défendre le territoire iranien contre l'Irak. Et autrement dit, le nationalisme iranien, ou le patriotisme, appelons ça comme on voudra, a été un ingrédient de plus. Et l'unité nationale iranienne, l'État iranien, constitué notamment par les Pahlavis, est une réalité extrêmement forte. Et donc l'Iran, dans ses frontières actuelles, est une réalité nationale ou patriotique extrêmement forte. Et donc, quand on prend le Hezbollah, par exemple, et la défense avancée, la théorie de défense avancée, c'est-à-dire, pour défendre le territoire iranien, on a des alliés loin, qu'on appellerait les proxys, par exemple, le Hezbollah, les Houthis, les milices en Irak, etc., qui sont destinés à protéger l'Iran. Certes, le Hezbollah avait pour ambition, le Hezbollah, c'est d'abord un parti libanais qui défend le territoire libanais au départ, de résistance, une organisation de résistance officiellement, pour défendre le territoire libanais qui était occupé par Israël. Évidemment, l'Iran a utilisé cela dans son discours. Mais qu'est-ce que se passe-t-il quand le Hezbollah a été éliminé par les Israéliens après l'histoire du Beeper en 2024? 6 mois plus tard, l'Iran est attaqué, l'Iran national est attaqué. Pourquoi? Parce que le Hezbollah, avec ses missiles extrêmement dangereux pour Israël, était une menace sur Israël pour éviter qu'Israël ne tape sur l'Iran. Donc la fonction du Hezbollah était certes islamique, pour jouer contre Israël et sa position qu'on peut contester du sionisme, mais c'était aussi, et je dirais même surtout, un élément militaire pour pouvoir, exploitant la bonne volonté des Libanais chiites, qui étaient les instruments de cela, pour protéger le territoire iranien. Donc n'oublions pas, dans la construction de la politique iranienne, l'islam c'est important, en ne regardant que cela, on s'est trompé. On pensait qu'effectivement, pousser sur le régime islamique devrait tomber, et c'est l'Iran qui résiste. Et aujourd'hui, c'est l'Iran qui est attaqué, plus que le régime islamique. Et de mon point de vue, c'est l'Iran qui résiste, de facto ou par lourdeur, mais c'est l'Iran qui résiste, et pas le régime islamique, qui lui se renforce, se bunkérise, est en train de mourir. C'est autre chose.
D'autres questions? On peut passer au deuxième point, donc où en est le pouvoir de la République islamique? Donc avec la succession du guide suprême, la militarisation du régime, la place centrale des gardiens de la révolution, vous l'avez évoqué, pose la question de la nature même du pouvoir. Est-ce que c'est encore un régime idéologique ou c'est un système de survie? Qui a le pouvoir en Iran? Et quelle est la véritable nature du pouvoir, religieuse, militaire, bureaucratique? Azadeh?
Écoutez, moi, si vous voulez, moi, je pense que le système de Velayat al-Faris, c'est-à-dire le gouvernement d'un jurisconsulte, est fini, c'est terminé. Et ce, avant même les frappes qui ont visé le guide Khamenei. D'ailleurs, lui-même, avant de mourir, avait délégué son pouvoir à Monsieur Ali Larijani, qui dirigeait au Conseil supérieur de la Sûreté nationale. Lui-même, il a été aussi tué par des frappes israéliennes. Mais pour vous dire que on constate, enfin personnellement, je voyais l'ascension des gardiens de la révolution qui sont un peu partout. C'est-à-dire pas seulement en termes de prise de décision militaire en temps de guerre, mais si vous regardez le parlement iranien par exemple, déjà le président du parlement c'est un gardien de la révolution, mais aussi des pans entiers de parlement islamique en Iran, les sièges sont occupés par des militaires, des gardiens de la révolution. Si vous regardez par exemple les membres aussi des gouvernements successifs, c'est la même chose. Donc les gardiens de la révolution ont aussi énormément d'investissements, bien sûr, depuis la décennie 1990, dans des différentes entreprises. Je ne vais pas les énumérer, mais ce que je veux dire, c'est même la télécom iranienne et j'en passe d'autres, des champs gaziers, pétroliers, etc. Et donc, étant donné que d'ailleurs ce JCPOA, cet accord sur le nucléaire 2015, était susceptible justement d'amoindrir au moins le poids des gardiens de la révolution dans l'économie iranienne et donner davantage de pouvoir au secteur privé, mais malheureusement, la sortie de Trump de l'accord a fait en sorte que les gardiens de la révolution prennent davantage de pouvoir aussi en question économique. Donc aujourd'hui, effectivement, je veux dire que le guide soit là ou non, vous savez que l'office de Khamenei a été nommé ou élu entre guillemets par l'Assemblée des experts le nouveau guide, mais premièrement c'est sous la pression des gardiens de la révolution, puisque Mojtaba Khamenei, le fils de Khamenei, est très proche des gardiens de la révolution, ça on le savait, que les membres de l'Assemblée des experts qui étaient un peu plus modérés, qui étaient contre la nomination ou l'élection de Mojtaba ont été écartés, menacés et eux-mêmes et leur famille même. Donc en fait, mais c'est vrai qu'on ne l'a jamais vu, ce jeune homme, si vous voulez. Et donc, parce qu'il a été blessé dans les frappes israéliennes qui ont tué son père. Et de toute façon, qu'il soit là ou pas là, à mon avis, le gouvernement des mollahs, le régime des mollahs, comme on dit en français, c'est fini. C'est fini. Il faut arrêter de dire le régime des mollahs. Les mollahs sont dans l'école théologique de Rome et d'ailleurs ne disent rien. Rien, parce qu'on leur même plus, on leur donne même pas le pouvoir de parler, si vous voulez. Et Mojtaba Khamenei, n'a absolument aucune assise au sein de l'école théologique. Donc, en fait, il ne représente pas l'école théologique, il ne représente que les gardiens de la Révolution. Voilà, donc on en est là aujourd'hui, je pense, dans un pays où des pans entiers du pays est effectivement, d'une façon ou d'une autre, géré et dirigé par les gardiens. Après, à côté, vous avez un petit service secteur privé, pardon, qui, comme on me l'a dit déjà il y a longtemps en Iran, le secteur privé ramasse des miettes qui n'intéressent pas les gardiens de la Révolution, et c'est là-dessus que le secteur privé fonctionne. Mais laissez-moi de terminer par quand même quelque chose de peut-être un petit peu plus optimiste, qui n'est pas de moi, mais moi je discute avec bien sûr mes amis iraniens de l'Iran qui sont spécialistes, et l'un d'eux disait récemment, hier, avant-hier, que après la fin de la guerre, afin que eux puissent rester au pouvoir, c'est-à-dire les mêmes gardiens, ils seront contraints d'ouvrir un petit peu vers la société civile. Pourquoi ? Déjà pour reconstruire tout ce qui a été dévasté, tout ce qui a été détruit. Et donc, ils ne peuvent pas continuer à réprimer comme ils le font aujourd'hui cette même société civile. Et il parlait aussi de, par exemple, d'un rôle peut-être plus important pour le secteur privé iranien après la fin de la guerre. Bon, je lui ai dit qu'il était trop optimiste pour moi, mais voilà, il y a pour vous dire qu'à l'heure actuelle, c'est très difficile de voir dans quelle direction on va, enfin, vous dites où va l'Iran, on ne sait pas. Ce qu'on sait, c'est que pour l'instant, on est dans une situation en Iran très, très, très difficile. Voilà.
Il veut intervenir ? Bernard ?
Oui, je crois qu'il y a un élément important. Il faut tenir compte du fait que les gardiens de la Révolution sont l'élite de la République islamique. L'élite, on peut critiquer ce qu'elle fait, mais c'est une élite. Parce qu'il s'agit, je vous le disais tout à l'heure, il s'agissait au début d'étudiants, de gens assez bien formés, qui étaient les responsables des comités révolutionnaires, qui au début de la Révolution, c'était des voyous, c'était un peu n'importe quoi. Ils ont structuré un peu la lutte contre le régime impérial qui était encore vivant, etc. Et donc, après la guerre, ils ont bien fait un travail de militaire pour se défendre, donc ils ont une expérience militaire.
Vous parlez de la guerre de 80 ?
La guerre de 80, oui. La guerre de 80, la guerre contre l'Irak. Ils ont ensuite été démobilisés, ils étaient des millions. Ne sont restés dans le système qu'uniquement les hauts gradés, les généraux, les colonels, qui ont continué à diriger le mouvement. Des centaines de milliers de gardiens de la Révolution pendant la guerre ont été démobilisés et récompensés, normalement. Après une guerre, on donne des bourses d'études aux étudiants. On donne des entreprises qui étaient nationalisées, sont privatisées et ils obtiennent des entreprises. Bref, les gardiens de la Révolution ont ainsi bénéficié des largesses de l'État, du pétrole, et donc ont pu ainsi acquérir, à titre personnel ou en tant qu'institution, un capital colossal au point de vue économique. Mais dirigeants des entreprises, ils ont donc embauché des ingénieurs, ils ont travaillé et ont essayé de se former à la gestion des entreprises, avec la corruption que ça suppose. Normalement. Mais ils ont été de bons gestionnaires et ils contrôlent l'économie avec les experts qu'il faut. Et ma foi, les entreprises, les gardiens de la Révolution, sont des entreprises qui tournent, qui rapportent beaucoup d'argent, merci. En mettant la moitié de côté, mais c'est autre chose. Ils ont été des gens qui ont terminé leurs études. J'ai pu rencontrer d'anciens généraux gardiens de la Révolution pendant la guerre qui ont repris leurs études en 90. J'ai donc rencontré comme étudiants et qui étaient des gens qui maintenant sont profs d'université et ont quitté les gardiens de la Révolution, ils l'ont été pendant la guerre, c'est terminé. Mais ce qui est important, c'est que ces gens-là, après la guerre, ont fait du business dans l'économie, ce qui est banal. Dans la politique aussi, ils ont très rapidement été élus députés, gouverneurs de province, préfets. C'est un peu banal, cela, de donner aux anciens combattants des postes dans la politique. Et ainsi donc, ces gens-là ont été à la fois de bons nationalistes qui ont défendu la patrie, des gens, des businessmen, des hommes politiques. Certains ont investi la culture également. Autrement dit, dans tous les secteurs, vous avez non pas l'armée actuelle des gardiens de la Révolution, 150, 200 000 hommes maximum, l'armée conventionnelle étant le double ou le triple. Mais ces gens-là sont l'élite du système, militaire, économique, politique, culturel et même religieux, avec leurs amis et ennemis intimes, les mollahs, qui donnent une couverture islamique à tout cela pour protéger le système. Mais mollahs et gardiens de la Révolution, c'est la corde et le pendu. On ne sait pas lequel soutient l'autre. Autrement dit, les gardiens de la Révolution sont une grande partie du contrôle de l'économie iranienne. Et donc aujourd'hui, il ne faut pas voir les gardiens de la Révolution simplement sur le plan militaire. Et là, ils sont remarquables parce qu'ils ont développé une industrie militaire remarquable avec les missiles notamment et le nucléaire. Ça ne se fait pas en 5 minutes. Une industrie nucléaire de ce type-là, c'est une gestion très sophistiquée pour construire cela.
Les drones,
etc. Donc c'est là, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Et les gardiens de révolution sont justement, on peut en tuer 1, 2, 3, 4, 5, 10 parmi les têtes pensantes, parmi les généraux et les colonels, c'est surtout un réseau, c'est tout un système. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les têtes sont tombées, on peut en faire tomber encore d'autres, ça pose des problèmes d'autres de politique en général, mais le système reste là. Et ils défendent leur système, défendent leurs acquis politiques, économiques, etc. Mais comme disait Azadeh, je crois que c'est quelque chose de très important, parmi ces gardiens de révolution, il y a toute une gamme idéologique. Certains qui sont pour libérer Jérusalem, et militants islamiques purs et durs, qui ont fait la guerre avec le Hezbollah, avec Bachar el-Assad, contre Israël. Il y en a aussi qui défendent leur intérêt économique, et c'est la plupart. Ils défendent leur position dans la société. Et autrement dit, ils défendent leur boutique, ce qui est assez banal. Et autrement dit, la guerre qu'ils font, ce n'est pas forcément pour défendre l'islam politique de la République islamique. Les Mollahs, ils n'aiment pas cela. C'est une autre tribu que les Mollahs. Ils disent que les Mollahs n'ont pas été capables de faire l'évolution qu'on a fait nous. On est allé à l'université, nous avons fait des diplômes. Et les Mollahs sont revenus dans leur école, ils continuent à faire du radotage sur l'aspect, sur le foulard des femmes. On s'en fiche du foulard des femmes. Je suis pour le tchador, mais enfin, c'est pas vital pour moi, gardien de la révolution. C'est pour les Mollahs, ils en ont fait tout un plat. Résultat, on a été battus, parce que les femmes ont gagné la bataille du foulard. Autrement dit, les gardiens de la révolution, il faut l'avoir dans la diversité, et c'est donc quelque part de là, de mon point de vue, qu'on pourra voir une évolution. Et Azadeh le disait, je crois que je disais quelqu'un qui est un peu optimiste, mais effectivement, il y a des gens dans le système qui disent, pour défendre le système, je vais peut-être accepter avec Trump un deal, un accord, pour pouvoir sauver, non pas l'islam, c'est fini ça, mais sauver mes acquis, mon pouvoir, et donc trouver un compromis. Et parmi ces gens-là, parce qu'ils sont justement attachés à leur pouvoir actuel, sont prêts à faire des concessions et à se débrouiller que s'il faut tomber quelques têtes ou couper quelques mains de voleurs, ce n'est pas ma main qui soit coupée, mais celle du voisin. D'où les divisions internes et les querelles gigantesques qu'il y a à l'intérieur d'un régime qui est affaibli, en fin de course, qui sait qu'il est en fin de course, et chacun cherche à trouver une bouée de sauvetage pour quitter le navire qui est en train de couler. C'est pour cela que c'est quelque part au milieu de ces gardiens qu'on va trouver peut-être les personnes qui vont assurer la transition, et ensuite, entre nous, je suis toujours très optimiste, on deviendra sur la société, les Iraniens sont assez grands pour pouvoir se débarrasser des gens un peu embêtants.
Azadeh, vous vouliez...
Oui, juste deux petites précisions. Alors, les gardiens de la révolution islamique, comme leur nom l'indique, sont des gardiens de la révolution islamique. C'est pas les gardiens de l'Iran. C'est juste ça. Et donc, tout ce qu'ils font, c'est aussi pour, comme tu disais, pour se maintenir au pouvoir et maintenir leur système. Et pas nécessairement, on ne peut pas les appeler des nationalistes ou quoi que ce soit. Je pense que ce qu'ils font, ce qu'ils ont fait depuis les 47 dernières années, c'est de se maintenir au pouvoir. Maintenant, face à des frappes et des attaques et la guerre actuelle israélo-américaine, eh bien, ils sont obligés de se défendre et de se maintenir, pour se maintenir au pouvoir. Et puis, deuxième précision, je pense que finalement, l'investissement de plusieurs centaines de milliards de dollars dans l'industrie nucléaire en Iran était une erreur fatale, une erreur grave. Pourquoi ? Parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas l'arme nucléaire. Ils disent que bon, c'est une industrie. Alors, vous savez, l'Iran a 285 jours de soleil par an, en moyenne, voire même plus. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au lieu d'investir massivement dans l'industrie solaire, etc., etc., eh bien, ils ont investi dans quoi ? Dans le nucléaire, qui d'ailleurs a été largement bombardé. Donc, et beaucoup d'Iraniens de l'Iran sont très contre, justement, ce type, entre guillemets, d'erreur stratégique commise par les mêmes gardiens de la révolution. Alors, si au début, l'idée c'était d'aller vers l'arme atomique, c'est autre chose. Mais le régime officiellement a pour rhétorique de dire non, on veut pas l'arme atomique, on n'a jamais voulu l'arme atomique, c'est pour avoir l'industrie. Or, l'industrie renouvelable en Iran, ça aurait été quelque chose de beaucoup plus intéressant et beaucoup, comment dire, mieux pour l'environnement et en même temps pas coûteux. Et enfin, ces gardiens de la révolution, eh bien, n'ont absolument pas investi pour le bien-être de la population. Si je regarde le budget annuel de gouvernement, ce qu'on constate, c'est que depuis de nombreuses années, mais bien avant la guerre, le secteur de santé, qui était l'un des meilleurs, comme vous le savez, au Moyen-Orient, et le secteur d'éducation, qui était l'un des meilleurs aussi, n'ont cessé de baisser en termes de budget. Et donc de qualité aussi, alors que le budget accordé aux militaires et aux écoles théologiques, n'ont cessé d'augmenter. Donc il y a tout ça, c'est-à-dire qu'il y avait, vous aviez, et l'environnement, je vous raconte pas, c'est-à-dire ils ont détruit l'environnement en Iran. Enfin, il y a tout ça, et donc cette population iranienne qui était dans la rue, protester contre cette mauvaise gestion de l'économie, mauvaise gestion de la richesse nationale, mauvaise gestion et beaucoup de corruption, on oublie souvent, mais des centaines ou dizaines de milliards, ça je pense Valide connaît mieux que moi le dossier, qui ont disparu de budget ou des revenus pétroliers et qui sont visiblement sur les comptes bancaires. On sait que Mojtaba Khamenei, maintenant ça a été démontré, par exemple, a investi grandement dans l'achat de façon indirecte, bien évidemment, des logements dans des quartiers les plus huppés de Londres, par exemple. Entre autres. Donc voilà. Alors que le critère principal pour un guide, c'est d'être au plan financier pur. Voilà, ça commence bien.
Aïde.
Oui. Bon, moi, ça, ce débat m'exaspère, pour tout vous dire, parce que peu importe, en fait. Ça, c'est typiquement français, ça veut dire qu'on... Quoi, ça fait une heure qu'on parle et on n'a toujours pas parlé des Iraniens. On parle des gardiens. Je m'en fous des gardiens. Désolé d'être un peu de répondre comme
c'est
ça.
C'est vous qui en pouvoir.
Non, mais je vous assure, j'entends plus parler des gardiens dans les débats français que quand j'écoute les débats iraniens. Vraiment, parce qu'il y a cette séduction, cette image romantique de Che Guevara, de Mao, du militaire oriental. Il y a pas grand-chose à dire. Hein. Ce sont des militaires oligarques, obsédés d'argent, islamisés, fanatiques, qui ont le sang de 58 parachutistes français sur les mains, qui ont le sang de dizaines de milliers d'Iraniens sur les mains. Et les Iraniens essayent de s'en débarrasser et ils n'arrivent pas. Pourquoi ? Parce qu'ils sont armés, les gardiens. Ils montrent aucune limite à tirer sur les gens. Et de l'autre côté, les gens ne sont pas armés. Donc voilà, à un moment, c'est pas très... Bon, il faut pas non plus tomber dans des fausses nuances et subtilités. Et là où il n'y en a pas... Mais bon, qui contrôle l'Iran aujourd'hui? Personne. Le pays est en guerre, le pays est en état d'urgence. Une autre chose que j'entends souvent et que je trouve assez extraordinaire en France, c'est qu'on dit que le régime tient bon. Alors moi, c'est vraiment une formule qui me... Non, un régime politique n'a quand même pas pour seule vocation de tuer des dizaines de milliers de personnes juste pour rester au pouvoir. L'économie iranienne aujourd'hui est à terre. Et je veux dire, on ne parle pas de 4, 5, 6% d'inflation. On parle, les chiffres officiels, 52% d'inflation. Alors regardez le taux de chômage. Alors regardez la gestion des ressources naturelles, des ressources humaines. Il n'y a rien qui fonctionne aujourd'hui en Iran. Les vacances du Nouvel An de Nowruz sont terminées. Aujourd'hui, normalement, le pays devrait être très dynamique. Et tout est fermé. Les universités sont fermées, les ministères sont fermés, les aéroports sont bombardés. Encore une fois, d'un côté, les Israéliens et les Américains qui montrent aucune limite dans leur frappe contre les infrastructures civiles. De l'autre côté, un régime... qui tient bon, c'est étonnant, non? C'est le régime français qui tient bon, c'est la 5e République qui tient bon, c'est la démocratie américaine qui et encore. Mais le régime iranien, je vous assure, le régime iranien ne tient absolument pas bon. Mais si vous voulez, c'est très simple, je sais, oui, sécuritairement, ils sont sur place, mais encore une fois, c'est assez simple, hein, c'est simple mais tragique. Ce qui est simple, c'est que vous êtes face à une dictature sanguinaire qui ne montre pas de limite dans la répression, c'est-à-dire dans l'emploi de la force létale. Ils n'ont aucune limite. Alors oui, le Shah, il était horrible avec la Savak, d'accord, mais il part quand même relativement rapidement. Donc ce que les Iraniens espéraient depuis très longtemps, c'était une chute à la soviétique, un effondrement interne avec la prospérité économique. Donc là, je vous rejoins, on n'aurait jamais dû sortir de l'accord nucléaire. On aurait dû aider l'opposition iranienne, la société civile iranienne. On aurait dû faire un travail de fond que les républicains américains, clairement, n'avaient pas envie de faire. Donc aujourd'hui, ils sont rentrés dans une logique guerrière qui ne donnera rien de bon. Donc pour répondre à votre question, moi je vais répondre, j'ai la réponse. Il sortira rien de bon de tout ça. C'est-à-dire l'Iran va perdre, je pense, du territoire. Si vous regardez l'histoire contemporaine de l'Iran, c'est ça. À chaque fois qu'il y a une guerre avec des grandes puissances étrangères, parce que les Iraniens se sont sentis trop puissants, parce que ils ont le souvenir de Cyrus le Grand, mais ils ont oublié que bon, les temps ont changé. Je veux dire, ça a été la même chose avec les Russes, avec les Britanniques. Regardez le 19e siècle, la carte de l'Iran, et regardez la carte de l'Iran d'aujourd'hui. Moi, j'ai bien peur qu'à la fin de cette guerre, le pays va peut-être perdre quelques îles dans le golfe Persique, et le pays va sans doute perdre beaucoup d'infrastructures. Et je vais vous dire, moi, j'ai aucun optimisme. Alors, mon identité iranienne et catholique m'invite à l'espérance et l'espoir en toutes conditions, mais j'ai quand même, quand j'analyse avec une tête froide et rationnelle, je vois vraiment très peu d'espoir pour la population iranienne.
Parlons des Iraniens, justement, c'est les sous-estimés, je crois, considérablement. Je pense, j'ai dit tout à l'heure que le régime, le système politique des républiques islamiques, et c'est confirmé, les grands mollahs, etc., n'existent plus. C'est en voie de déclin, de restructuration. Cela dit, des choses ne changent pas en 3 minutes, du point de vue légal. Cela dit, on parle, moi je suis bien d'accord sur le fait, gardien de la révolution, chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est le gardien de la révolution. Non. C'est pour ça que je dis que la résistance de l'Iran aujourd'hui, parce que l'Iran résiste, ce n'est pas les gardiens de la révolution, c'est l'Iran qui résiste. Alors le fait que le type qui appuie sur un bouton d'un missile est une casquette gardien de révolution, ça ne veut pas dire que c'est un gardien de révolution qui le fait. C'est un soldat de la République islamique d'Iran. Les gardiens de révolution sont une branche de cela. Et dans le cas actuel, leur parti, ils veulent sauver leur argent, etc. On est entièrement d'accord là-dessus. Mais en attendant, vu la guerre, ils sont amenés à jouer le rôle de facto de défenseurs du territoire iranien national. Autrement dit, le nationalisme iranien, l'effet drapeau, comme l'on dit, il existe, non pas que les gens vont se ruer pour défendre la patrie avec le gardien de la révolution, mais de facto, la seule armée, l'armée conventionnelle fait le travail aussi, ne pas l'oublier, mais chaque fois que l'armée fait quelque chose, on dit les gardiens de la révolution. Non, c'est l'armée nationale iranienne qui fait le travail de défense du territoire comme fait n'importe quelle armée. Le problème, c'est que cela, du point de vue politique, Azadeh parlait des manifestations pro-régime, en quelque sorte, qui sont de plus en plus nombreuses, effectivement, parce qu'il y a une mobilisation. Je m'interroge simplement sur le fait que beaucoup de gens en Iran en ont évidemment assez de la République islamique, c'est une réalité claire, nette quasiment unanime. Même chez les gardiens de la Révolution, ne pas oublier que parmi les troupes, la moitié sont des conscrits. Ce sont des jeunes qui sont leurs services militaires. Et faire un service militaire chez les gardiens de la Révolution, c'est mieux parce qu'on est mieux payé, on mange mieux, on est mieux habillé que dans l'armée, qu'on est un simple bidasse au fin fond de l'Iran. Autrement dit, et même chose pour l'armée nationale. Autrement dit, il y a chez ces gens-là, ou même chez les officiers subalternes des gardiens de la Révolution, pour parler d'eux simplement, ils ne sont pas tout à fait contents des quelques 50 euros par mois qu'ils gagnent aujourd'hui, vu la dévaluation et l'inflation, etc. Ils ne sont pas contents du système. Alors que leurs généraux, eux, ils ont l'argent en Suisse ou dans des appartements à Londres. Il faut le voir, à l'intérieur des gardiens de la Révolution, des divisions extrêmement fortes qui font que pour le moment, il n'y a pas le choix, on envoie des missiles et des drones sur les voisins dans le cas d'une guerre nationale. C'est leur job actuel. Mais ils n'en pensent pas moins. Il faut sortir de la chose. Et donc, dès que la guerre se termine, effectivement, on verra à ce moment-là les divisions que l'on connaît bien à l'intérieur des gardiens, entre l'armée et les gardiens, à l'intérieur de la société. Des mollahs qui voudront éviter qu'on se souvienne trop des actions qu'ils ont commises avant pour se faire innocenter en disant « c'était au nom de Dieu que je faisais ça et dans l'intérêt du peuple ». Bon, toutes ces divisions vont réapparaître et le combat politique existera. Et je pense qu'effectivement, il y a suffisamment de rapports de force nuancés en Iran pour que la majorité silencieuse, j'aime pas ce terme-là, la plupart des Iraniens, ils en ont assez du système. Ils ne vont pas le défendre. Ils ne vont pas non plus le combattre sans armes. Ce serait se suicider. Mais ils seraient pour trouver quelqu'un qui arrête la guerre premièrement et qu'on puisse reconstruire le pays avant qu'il soit totalement détruit. Ce qui fait que ces gens-là, s'il y avait quelqu'un, tu parlais tout à l'heure d'un Gorbatchev iranien, de quelqu'un qui, dans le régime, pourrait dire ça, on n'en a pas trouvé pour l'instant, ça pourra peut-être se trouver, c'est un Bonaparte plutôt qu'un Gorbatchev, hein, mais pour arrêter le drame, pour arrêter le drame. Et à ce moment-là, moi personnellement, j'ai une confiance peut-être illimitée et irrationnelle dans la force et la capacité des Iraniens qui ont une expérience politique exceptionnelle pour une fois la dictature militaire qui va de facto s'imposer pour arrêter le cessez-le-feu et gérer la fin de la guerre avec les Américains. En 1944, je pense, c'est le chef de l'état-major de l'armée allemande qui est venu à Berlin pour signer. On n'a pas pris le boulanger du coin pour signer un accord. C'est le commandant de l'armée nazie qui est venu signer la reddition. Donc aujourd'hui, c'est forcément des gens du régime qui vont signer cessez-le-feu quelque chose. Donc c'est à partir de là qu'il faut voir comment ça peut bouger. Et faites-moi confiance, les Iraniens n'ont pas les deux pieds dans le même sabot.
Merci. Des questions? Oui, monsieur. Alors, est-ce que les micros marchent? Oui, c'est merveilleux. On attend le micro.
Bonsoir. Oui, vous avez évoqué la guerre, mais alors il y a ce que vous avez évoqué, enfin effleuré, c'est le désastre climatique en Iran. On parle de sécheresse très grave, on parle de rupture d'approvisionnement en eau à Téhéran, on parle même de déplacer la capitale tellement la question de l'eau devient fondamentale. Il n'y a pas eu d'usine de dessalement de l'eau de mer en Iran qui a été construite. Enfin, comment les autorités, en plus avec la guerre, peuvent gérer ce problème qui est un problème de sécheresse, un problème, les barrages sont à vide. C'est encore quelque chose de très grave dont on parle peu, mais comment les autorités peuvent faire face à ce problème en plus?
Merci pour la question. Écoutez, il semblerait que Allah est avec les Iraniens, puisqu'il a beaucoup plu ces temps-ci. De sorte que les barrages, qui étaient quasiment à sec, sont maintenant remplis à environ 50%. Que, par exemple, le lac d'Oroumié, qui était à sec maintenant, provisoirement, hein, mais en tout cas ne l'est plus, etc. Mais effectivement, comme je le disais, les problèmes environnementaux en Iran sont en partie du fait de la sécheresse qui je pense que tout le monde est au courant et c'est régional, c'est le changement climatique, etc. Mais en bonne partie aussi, c'est la mauvaise gestion, c'est la conclusion de la mauvaise gestion de l'eau, mauvaise gestion des richesses, autres richesses du pays. Pour vous donner un exemple, par exemple, eh bien, on sait que l'eau est détournée. Moi, je suis originaire du centre de l'Iran, la région d'Ispahan. Si vous regardez la neige qui fond, etc., il y a énormément d'eau. Comment se fait-il que le fleuve de Zayandérouz est à sec? Parce que l'eau est détournée sur son chemin. Détournée vers quoi? Vers à la fois le secteur agroalimentaire et industriel, donc qui est possédé par les gardiens de la Révolution. Là encore, je suis obligée de parler des gardiens parce qu'ils sont partout. Tu peux pas juste parler des peuples iraniens ou de la population en Iran parce que là où je regarde, les gardiens sont là. Donc détourner l'eau pour leur usage, donc fait que les autres en sont privés de cette même eau. Alors que l'eau, ça, il y en a, ça existe. Il y a même beaucoup d'eau dans cette partie-là, le Kouring. À cela s'ajoute encore une fois le fait que, par exemple, ils faisaient cultiver des denrées en Iran qui demandaient beaucoup d'eau, alors que c'est une région centrale de l'Iran et beaucoup de régions en Iran qui manquent d'eau et sont irriguées, doivent être irriguées. Donc on ne va pas, par exemple, produire du blé dans un endroit qui demande beaucoup d'irrigation, et j'en passe et d'autres. Ou de maïs, pareil. Donc, ou tomates. Donc tout ça, c'était des erreurs graves liées à la mauvaise gestion de l'économie. Pourquoi? Parce que des gens qui savent faire ne sont pas au pouvoir. Je suis désolée, Bernard. Ces gens-là, peut-être qu'ils sont allés à la fac, mais visiblement, ils n'ont rien compris. En tout cas, ils ne laissent pas gérer des pans entiers de l'économie par des gens qui savent faire. Or, en Iran, nous avons d'excellents ingénieurs, d'excellents économistes. Mais où sont-ils? Ils ne sont pas au pouvoir, ils ne sont pas en train de gérer. Pourquoi? Parce qu'on les en empêche. Pourquoi? Parce que ils ont refusé de faire partie de la mafia qui dirige ce pays, soit pour d'autres raisons. Mais en tout cas, une bonne partie des problèmes environnementaux de l'Iran, encore une fois, sont liés à la mauvaise gestion de l'environnement et pas seulement liés à la sécheresse ou à des changements climatiques. Et on a, je termine là, on a des personnes qui sont des défenseurs de l'environnement qui ont été arrêtées, emprisonnées, leur responsable a été tué en prison et on a dit qu'il s'est suicidé alors que ses proches disent que c'est impossible qu'il se soit suicidé, etc. Donc en fait, les militants de l'environnement en Iran sont aussi énormément réprimés.
D'autres questions, monsieur?
Vous avez dit qu'il y avait une relation entre Israël et les gardiens de la révolution, c'était Monsieur Bernard, je crois, qui en parlait de ça, que Israël a renforcé. Je n'ai pas compris comment.
Non, je voulais dire par là que le cœur du sujet, c'est la relation Iran-États-Unis, qui est un des problèmes clés politiques, historiques, de la révolution islamique et de l'Iran islamique. Et donc, tout accord Iran-États-Unis a des partisans et des opposants. Parmi les opposants, il y a les plus radicaux en Iran, qui veulent effectivement une guerre islamique pour libérer Jérusalem contre Israël, etc. Les idéologues, ça existe. Deuxièmement, il y avait à l'époque les royalistes. Les royalistes qui remontaient un peu dans les médias et qui ne voulaient pas d'un accord entre la République islamique et les États-Unis, qui aurait amené, comme ils étaient contre l'accord sur le nucléaire de 2015, qui aurait permis de l'intérieur de l'Iran des changements politiques éventuels, c'est pas gagné, éventuels, qui auraient donné le pouvoir à des gens de l'Iran. Et moi qui suis roi aux États-Unis, donc je ne pourrais pas revenir. Et troisième élément contre un accord Iran-États-Unis, c'est Israël, bien évidemment, qui ne veut pas d'un Iran qui aurait une capacité de changer son régime s'il était en situation à peu près normale et vu l'évolution des temps et la volonté des Iraniens de changer. Et donc, ils étaient contre cela. Ce qui fait qu'en déclarant la guerre aujourd'hui, ils ont donné le pouvoir aux gens qui étaient en place, les plus forts, c'est-à-dire les gardiens de la révolution et la partie répressive du régime, exactement comme en 1980, l'attaque contre l'Iran a donné le pouvoir à Khomeini complètement, qui a pris le pouvoir totalité. Et donc aujourd'hui, je dis pour simplifier de façon très elliptique, évidemment, c'est Israël qui a poussé au pouvoir, en éliminant les mollahs, il a poussé au pouvoir les gardiens de la révolution, leur donnant carte blanche pour faire le travail. Et donc, ce n'est pas forcément pour les Iraniens une bonne solution, mais c'est un changement de régime. Comme dirait Trump, le régime a changé. Effectivement, les mollahs ne sont plus là. Hein, c'est une autre partie du système qui est là. Et qu'est-ce qu'ils sont? Il faut regarder dans le détail parce que, voilà.
D'autres questions? Monsieur.
Oui, je voudrais savoir ce que vous pensez de ce monsieur Pahlavi, Reza Pahlavi, le fils du Shah. Pourrait-il être un rassembleur ou en tout cas un totem qui pourrait jouer son rôle?
Je peux répondre.
Écoutez, la réponse est non. Il a montré qu'il divise beaucoup plus qu'il ne rassemble. Rassemble les Iraniens. Et on connaît aussi les ramifications existantes entre Israël, c'est-à-dire Netanyahou, le gouvernement de Netanyahou, avec Reza Pahlavi, et surtout en France, avec ceux qui soutiennent Reza Pahlavi et qui sont dans les manifestations avec le drapeau israélien presque tous les week-ends. Tout ça a été documenté aussi par un journaliste et donc un article d'investigation est aussi paru récemment dans un journal, un site qui s'appelle Blast. Si vous regardez, on peut voir les résultats de ces recherches. Le Reza Pahlavi a fait en sorte que ses propres conseillers de départ, il y en a plusieurs, l'ont quitté. Et il a fini par avoir des conseillers. Alors, il a deux conseillers, dont un qui était anciennement conseiller d'un ministre de renseignement en Iran. Vous voyez un peu les paradoxes, etc. Et l'autre qui l'a poussé à aller en Israël, rencontrer pendant la guerre de Gaza, aller rencontrer par exemple M. Netanyahou, un certain nombre de ses ministres. Ça, c'était pas une, par exemple, bonne, c'était pas un bon conseil. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que au début, oui, par exemple, en janvier 2026, une partie des gens qui étaient dans la rue à Téhéran, ou peut-être ailleurs aussi en Iran, l'avaient été du fait de l'appel de Reza Pahlavi, ça c'est indéniable, mais ça concerne une partie seulement. Et les mêmes, aujourd'hui, beaucoup d'entre ces personnes-là, et moi j'en connais qui étaient blessés même, et qui dont les familles qui avaient perdu par exemple leurs enfants dans la rue, qui étaient propres à la vie et qui aujourd'hui ne le sont plus. Pourquoi? Parce qu'ils voient déjà que Reza Pahlavi leur a menti en disant que 50 000 personnes au sein des forces armées étaient en sa faveur. Donc il a encouragé les gens d'aller dans la rue en disant les forces militaires sont là. En même temps, Trump leur a dit « Allez-y, l'aide arrive ». Et ils se sont fait massacrer par qui? Par les gardiens de la révolution qui avaient préparé tout ça. Et l'un des conseillers de Reza Pahlavi qui est cité aussi dans ce rapport dont je parle, disait que j'ai appris que les Iraniens, enfin le gardien de la révolution et autres étaient en train de préparer le massacre des manifestants. J'ai appelé Reza Pahlavi parce que j'avais été son conseiller pendant 20 ans et je lui ai dit « Ne faites pas cet appel-là, ils vont tuer les manifestants. » Il m'a pas écouté. Et je vois j'entends la même sonde de cloche des autres conseillers de Reza Pahlavi, dont certains que je connais personnellement aussi. Donc, pour vous dire qu'il, au début, oui, il aurait pu peut-être jouer un rôle, mais à force de se tromper et à force de d'être aussi... il a même été lâché par Trump, hein, vous le savez peut-être, mais Trump a dit récemment, il a dit, bon, il est gentil, mais pas du tout... C'est pas du tout un homme qui puisse gouverner l'Iran. Et donc, il est soutenu actuellement que par Netanyahou. Et bien évidemment, pas d'espoir pour lui de rentrer en Iran un jour. Puis, il a écrit aussi un programme de transition. Quand j'ai lu le programme, c'est vraiment un programme dictatorial. Moi, je le dis haut et fort, c'est pas un programme de transition. Parce qu'il se donne, tout comme le Velayat al-Fari, le gouvernement d'un jurisconsulte qui nomme tout le monde, il se donne le droit de nommer tout le monde pendant cette soi-disant période de transition. Et donc, il a été aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup critiqué de ce fait-là. Ce qu'on peut constater aujourd'hui en Iran avec la guerre, puisqu'il a soutenu la guerre, il a dit à Trump, allez-y, à Israël, allez-y, allez bombarder. Et même encore récemment, c'est-à-dire alors même que le pays est très détruit, il a encore soutenu la guerre. Il a perdu des pans entiers de ses soutiens en Iran. Et aussi, il avait promis à Trump et Netanyahou et autres que le régime allait s'effondrer et que les forces militaires ne vont pas soutenir le régime. Oh, rien de tel n'est arrivé, c'est tout le contraire qui est arrivé parce que le pays était en guerre tout simplement. Donc tout ça a fait qu'il a perdu des pans entiers de ses soutiens. Et il n'est pas soutenu par Trump non plus. Alors, comment il veut faire? Je pense qu'il va rester à Washington, là où il habite.
Bénédicte.
Oui, j'ai deux questions à vous poser. La première, c'est est-ce qu'on sait comment est-ce que les Israéliens ont pu infiltrer aussi profondément le système économique, militaire, etc. iranien? Est-ce que c'est un des signes, selon vous, de cette perte de soutien en fait de la population iranienne vis-à-vis du régime, ou est-ce que c'est deux choses décorrélées? Et d'autre part, toujours pareil sur la question du soutien de la population. Là, je m'interrogeais sur le soutien des populations chiites dans les pays autour, Yémen, Irak, Liban, etc. Est-ce que là aussi, il y a quelque chose, un mouvement qu'on peut mesurer de perte de crédit et de ras-le-bol, etc. Je ne parle pas des structures vraiment militaires du Hezbollah ou des Houthis, enfin des têtes militaires, mais vraiment au sein de ces communautés, est-ce qu'on peut mesurer quelque chose ou c'est très compliqué
de répondre?
Est-ce que je peux répondre rapidement, juste une partie? Pour les espions israéliens, je laisse les messieurs répondre, mais non, mais parce que je n'en sais rien, mais comment ils ont pu infiltrer, ce qu'on sait, c'est que ça existe depuis longtemps, qu'un certain nombre, par exemple, des personnes étaient même, bon, mais après, c'est lui dire, moi, je ne peux pas répondre à la première question, mais en ce qui concerne le soutien de la population pour le régime, c'est ça votre question?
Les chiites dans les autres pays.
Alors, les chiites et pas que les chiites, parce que déjà, Murtada al-Sadr, je ne sais pas si vous connaissez, bon, l'Iran a des groupes de proxy en Irak, Daesh al-Shaabi, etc. Ça, c'est normal qu'ils soutiennent le régime islamique, mais en même temps, Murtada al-Sadr ne s'entend absolument pas avec le régime islamique. Hein. Donc, c'est un chef aussi religieux, chiite, très, très, très populaire, dans les classes populaires à Bagdad, en tout cas. Et donc, récemment, il a appelé, avant-hier, il a appelé à une manifestation de soutien à l'Iran. Et il y avait des dizaines de milliers d'Irakiens chiites pro-Murtada al-Sadr qui étaient dans les rues à Bagdad pour soutenir les Iraniens. Donc, le soutien est grand. Pourquoi ? Parce que le pays est face à une agression militaire israélo-américaine. Il faut pas oublier ça. D'un autre côté, il n'y a pas que des... Alors, bien évidemment, des chiites de Bahreïn, vous êtes au courant ils ont manifesté, etc. Ils ont été beaucoup réprimés. Il y a aussi, bien sûr, la Houthis de Yémen qui ne sont pas les chiites comme en Iran ou en Irak parce que ils ne croient qu'en 6 imams et pas 12. Et si vous ne croyez pas en 12e imam, vous n'êtes pas 12 imamites. Donc, voilà, c'est différent. Mais également, le Hezbollah, tout ça, on sait. Mais moi, c'est les sunnites aussi. Je parle de la population sunnite. Aller en Tunisie, aller en Algérie, aller au Maroc, aller en Turquie, tiens, l'Iran a énormément de soutien de la part de la population, pas les dirigeants, mais de la population. Parce qu'ils disent, vous, écoutez, pardon, mais on me dit par exemple, vous êtes la fierté de l'islam. Je dis, ah bon, fierté de l'islam, moi, oui, en tant qu'Iranien, vous êtes la fierté de l'islam. Parce que votre pays a tenu tête et tient tête. Donc ça, c'est ça. C'est-à-dire que quelque part, pardon, mais de m'exprimer ainsi, mais l'Iran est en train, dans leur imaginaire, hein, est en train de sauver l'honneur des musulmans et l'honneur des Arabes. Et je vous assure que moi, j'ai eu des gens de Bangladesh, les musulmans de Bangladesh, des musulmans d'Indonésie qui disent la même chose. Parce que je reçois aussi souvent des messages de soutien. Je vous parle même pas des mêmes populations en France. Il faut les interroger et ils vous diront. Absolument. Donc, c'est le soutien des peuples, qu'ils soient chiites ou sunnites, est massif pour l'Iran, contre Israël et les États-Unis.
Alors, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, que Israël, finalement, renforce les courants idéologiques islamiques. Parce que, comme je disais tout à l'heure, de mon point de vue, c'est l'Iran qui résiste et pas le régime. Donc, c'est le peuple iranien, les Iraniens qui résistent, l'État iranien qui résiste. Et donc, à Bahreïn, en Turquie, au Bangladesh ou ailleurs, effectivement, la dynamique musulmane, c'est encore les musulmans qui sont brimés, parce qu'ils s'identifient comme musulmans, mais c'est aussi les États. Et entre les deux, je vous ai dit, il y a une espèce de symbiose ou de mélange, quelquefois. Et quelquefois, l'islam et le nationalisme se rejoignent quand il y a une saison de guerre. Donc, actuellement, qu'est-ce qui est le plus important? Qu'est-ce qui résiste? L'Iran islamique? À mon avis, pas beaucoup. Mais par contre, l'Iran iranien, oui. Et autrement dit, mais l'Iran, tiens, c'est un pays des chiites. Oui, mais enfin, les Iraniens, ils sont aussi autre chose. Donc, il faut essayer de faire la distinction entre ces deux éléments-là. Mais concrètement, la guerre d'Israël, Israël, ce n'est pas n'importe quel pays non plus, hein, vis-à-vis du monde musulman. Donc, le fait d'être attaqué par Israël est vu comme une attaque contre les musulmans, quel que soit le système. Et donc, tous les musulmans du monde vont soutenir le pays attaqué injustement, comme pour les Palestiniens. Ils reçoivent une sympathie, ils se moquent des Palestiniens, ils ne savent pas où c'est, ni même l'Iran. Mais un peuple musulman est attaqué par Israël, légitimement, il y a un soutien a priori de n'importe quelle population dans le monde qui est musulmane contre cette attaque israélienne. Ce qui peut poser beaucoup de problèmes, y compris en France, chez les musulmans, qui disent, comment en France, qu'est-ce que vous faites? Un pays comme l'Iran est attaqué, des musulmans sont attaqués, vous ne dites rien. L'Ukraine est attaquée, vous réagissez immédiatement. Quelle différence y a-t-il entre Israël qui attaque l'Iran et Poutine qui attaque l'Ukraine? Je voulais voir la différence. Vous réagissez à fond d'un côté et pas de l'autre. Parce que ce sont des musulmans, vous les méprisez? C'est une vraie question, cela. Une vraie question. Quant aux Israéliens et sur le Mossad et leur entrée en Iran, c'est remarquable. Bon, le fait que les Israéliens aient réussi à avoir des informations extrêmement sophistiquées sur tous les détails de l'Iran, que n'ont pas les Américains, c'est une réalité. Soit par les Iraniens d'origine et réfugiés en Israël, soit, certains m'ont dit, l'argent. La République islamique n'est pas très appréciée en Iran. Donc si je vous donne quelques facilités, un peu d'argent, pour me donner quelques tuyaux sur orbite générale un tel, mais il habite au 5e étage à gauche du 43 avenue Pahlavi, pas venue de l'islam. Et donc on saura que le général un tel habite là, et pour lui envoyer un drone ensuite, pour le tuer, c'est facile. On peut trouver assez facilement, vu la popularité de la République islamique, pas mal de personnes qui sont disposées à rendre service, disons. Outre le fait que les Israéliens ont une capacité d'entrisme assez forte.
Aïe. Sur les populations musulmanes, je ne suis pas d'accord. Je pense à les demander aux Syriens qui ont subi des centaines de milliers de morts à cause de la République islamique, et ils détestent la République islamique. À les demander aux Libanais, ils détestent la République islamique. Je pense que c'est assez simple. Ceux qui sont antisémites ont quand même une certaine sympathie, je dirais, pour le régime. Moi, je le réduis pour le coup à ça, et je ne fais pas d'amalgame entre la critique légitime d'un gouvernement d'extrême droite en Israël et l'antisémitisme. Et pour le coup, ceux qui ont de la sympathie pour la République islamique, c'est en raison de leur antisémitisme, souvent. Parce que je ne vois pas comment ils peuvent considérer que tuer des dizaines de milliers de personnes en 48 heures, c'est islamique. Et... Donc, non, je ne parle pas de vous, mais je parle de ceux...
Moi, je n'ai pas parlé de régime islamique. C'est la sympathie, c'est pour les Iraniens, pas pour le régime, en tout cas, en ce qui me concerne.
Moi, j'ai rarement senti de la sympathie à l'égard des Iraniens.
Ah ben, bien sûr, enfin, à l'égard du régime, parce que oui, peut-être mais pas que tu ne voyages pas. Même en Égypte, moi j'y étais récemment. Il y a beaucoup de sympathie pour les Iraniens. J'ai pas parlé du régime, ok. Et Syrie, malheureusement, pardon de t'avoir interrompu, mais il y a les Syriens, c'est leur problème. Ils ne font pas la différence ou ils sont pas capables de faire la différence entre le régime islamique qui a participé à leur massacre et les Iraniens, les peuples iraniens qui eux aussi ont été massacrés et sont toujours massacrés par le régime. Mais c'est deux choses différentes. Moi, je parle des populations. Quand on me dit fierté de l'islam, c'est de moi qu'on parle. Moi, en tant qu'iranienne. Oui, mais voilà, après, je suis ni musulmane réellement, ni rien. Voilà.
Oui.
Sans doute, mais nous sommes en désaccord. Donc, le droit d'être en désaccord.
Il faut que tu répondes à moi. J'ai pas dit ça. Enfin, il faut dire.
Je parlais de la question et sur l'infiltration des services d'enseignement, parce que le régime ne tient pas bon. Parce qu'on revient à ce que je disais tout à l'heure. Parce que c'est un système dysfonctionnel. Donc, dans un système dysfonctionnel, et les services de contre-espionnage ne fonctionnent pas correctement, comme les services économiques, comme toutes les autres politiques publiques du pays ne fonctionnent pas. Il n'y a pas de raison que les services de contre-espionnage fonctionnent correctement.
Très bien. Une plaisanterie de ce point de vue-là, on disait que pendant que les forces de sécurité iraniennes couraient après les filles pour leur tchador, ils ne repéraient pas les agents israéliens qui étaient en train de préparer la guerre.
Merci beaucoup. Merci pour la qualité de ce débat. C'était extrêmement intéressant. Je passe la parole à Louis Lourme.
Ah, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux trois partenaires de la soirée, c'est-à-dire la revue Études, le journal La Croix et les facultés Loyola Paris. C'est heureux qu'on puisse avoir des soirées comme ça régulièrement, tous les mois. Donc merci aux partenaires, merci aux habitués qui sont là. Je redis, comme on dit chaque mois, si vous voulez soutenir les mardis d'éthique publique qui abordent des sujets très variés, pour les plus habitués, vous le savez bien, vous pouvez le faire à la sortie. Voilà. Le prochain rendez-vous, je le dis sous le contrôle des regards de ceux qui co-organisent, c'est bien le 19 mai. J'ai réussi. Je l'avais noté sur mon téléphone, mais mon téléphone n'a plus de batterie. Tout le monde s'en fiche, mais je le dis quand même. Donc c'est le 19 mai, à la même heure, 19h15. Ce sera sur un sujet de bioéthique. Voilà, bioéthique le 19 mai. Merci aux intervenants et bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup.